Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Il ne faut pas chercher loin pour trouver les causes de l'insatisfaction des Français. La crise a été sévère pour la France. Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi a dépassé le million. Le revenu global de notre pays a baissé en 1975 de 3%, alors qu'il n'avait jamais cessé d'augmenter depuis la fin de la guerre.
Nous sommes en 1976, 2 ans après l'élection, il n'y a aucun suspense, hein, on peut spoiler la fin, on la connaît tous, 1981. Si Valéry Giscard d'Estaing perd, c'est pour beaucoup à cause de cela, 1 million de chômeurs déjà, et ça ne va pas cesser d'augmenter. 7 ans de réflexion, un septennat donc, mais il n'a pas trouvé la parade au choc pétrolier. Relance, puis austérité, ça tâtonne, ça échoue. Certains parlent d'erreur de politique économique. Lui qui avait été en charge des finances sous De Gaulle, sous Pompidou, comment pouvait-il imaginer après 30 ans de croissance et de plein emploi, même sans le bac, on pouvait prendre l'ascenseur social. Comment imaginer donc que la France allait basculer sur plus de 40 ans de crise avec un S ? Là, 1976, la porte s'est déjà refermée sur les 30 glorieuses, montée du chômage, dernier budget à l'équilibre. Ah, et toujours l'inflation. Ça au moins, ça a changé. Donc oui, ce matin, on peut parler du bilan de Giscard, le nucléaire, le TGV, le dialogue franco-allemand, le serpent monétaire européen. Mais si vous voulez, mon sentiment, VGE, bien avant d'être un bilan, c'est un moment.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est samedi, c'est Économie. Le magazine est réalisé par Juliette Gou. Valentin Pérez est attaché de production. Et Florent Layani nous accompagne ce matin à la technique. Samedi 5 décembre 2020, les débatteurs ce matin, ils sont à mes côtés. Je salue Béatrice Mathieu de l'Express. Bonjour Béatrice et bienvenue.
Bonjour.
Et Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Vous l'entendez, Christian, cette alarme hein
Non, pas du tout. Vous parlez de quoi?
On a une petite alarme, on ne sait pas, on va aller voir. Christian Chavagneux, alors moi je dis que c'est un moment de bascule VGE pour vous. Qu'est-ce que c'est ?
Moi, je me rappelle surtout ce qu'on a appelé le fameux emprunt Giscard de la fin de 1973. Et alors, on rappelle souvent que ça nous a coûté une fortune, et c'est vrai. Hein, je rappelle, c'était un emprunt de 6,5 milliards de francs. Et quand on l'a remboursé, on a dû débourser 90 milliards de francs. Pourquoi ? Parce que Giscard avait adossé le remboursement de l'emprunt au cours de l'or, qui ont beaucoup monté. Donc oui, on a raison de souligner ça. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est pourquoi Giscard avait lancé cet emprunt.
Bah oui.
Et en fait, il avait lancé cet emprunt parce qu'il baissait la TVA. Donc cette substitution de la dette publique aux impôts, c'est typique des gouvernements libéraux. Et il faut savoir que depuis les années 70, la dette française augmente surtout quand il y a des gouvernements libéraux au pouvoir. La dette publique, c'est l'héritage du libéralisme économique.
L'héritage de Valéry Giscard d'Estaing pour vous, Béatrice Mathieu, ou bien la marque VGE ?
La marque VGE en économie, c'est pas simplement 74-81, comme vous l'avez rappelé. En fait, il a été aux manettes de la politique économique, en fait, depuis 59, où il était secrétaire d'État au budget. Et après, quasiment de 62 à 74, il a quasiment tout le temps été au ministère de l'économie. Et donc, il y a un premier héritage, en fait, qu'on lui doit, c'est la réforme fiscale de 1959. Et une grande réforme fiscale, puisqu'elle concerne l'impôt sur le revenu, où là, il y a une énorme opération de simplification de l'impôt sur le revenu, qui était extrêmement compliquée avant, où il y avait une partie de proportionnalité, une partie de progressivité, certains ne payaient pas, etc. Donc là, il lance à cette époque-là une grande réforme de l'IR avec un impôt progressif qui concernera les salariés et les non-salariés, et qui va s'étaler, en fait, cette grande réforme de simplification quasiment jusqu'en 72. Donc ça, c'est un de ses grands héritages. Vous avez effectivement noté le SME, même si...
C'est quoi ? C'est les prémices de l'euro ?
Après que l'ensemble des grands pays industrialisés aient décidé de laisser les taux de change aller dans tous les sens, Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt se disent ce serait bien que les Européens arrivent à contrôler les mouvements d'échange.
Ah oui, parce qu'on n'arrêtait pas les dévaluations.
Alors, les dévaluations, c'était utile pour la France, mais il ne fallait pas que ça aille trop loin, ni dans un sens, ni dans un autre. On va essayer d'encadrer ça. Ce sont les prémices de la monnaie unique.
Oui, mais on ne l'a pas réussi. Et on ne l'a pas réussi parce que dans ce système monétaire européen, hein, qui était malgré tout encadré par des bornes. Ce qui était essentiel, c'était une maîtrise de l'inflation. Et comme vous l'avez dit, Alexandra, bah, on n'a pas réussi à maîtriser l'inflation alors que l'Allemagne a réussi. D'où la nécessité de redévaluation compétitive pour regagner en compétitivité.
Allez, ça c'était notre coup d'œil dans le rétroviseur obsèque de VGE aujourd'hui. Mais votre débat, Béatrice Christian, ce matin, il concerne plutôt que le passé, le présent et le futur. On va parler de cette course au vaccin. Financer, négocier, produire, comment et pourquoi cette fois c'est allé aussi vite? On vous retrouve dans une poignée de secondes. En attendant les jours meilleurs, certains ont les deux pieds dans la glu du quotidien, des commerçants, des entreprises, des chefs d'entreprise qui s'avouent perdus en fait, hein, dans le maquis des aides. Vous entendrez le reportage d'Hélène Philly. Et puis, que font les assureurs? Eh ben pas assez. En tout cas, ça, c'est la petite musique qui est en train de revenir. Hein. On a même un ultimatum de Bercy aux assureurs pour obtenir un geste d'ici lundi. Florence Lustmann, la présidente de la Fédération française de l'assurance, celle qui représente les compagnies, les mutuelles, les réassureurs, elle sera dans le studio vers 9h45, interview. Et puis, il y aura bien sûr les questions de vie au boulot. Vous êtes là, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, ce matin, question 2.
Alors une question de Clotilde sur les 10 jours de congés payés que l'État va prendre à sa charge, pour les restaurateurs notamment. Clotilde a un magasin de décoration, elle aussi, elle a souffert du confinement. Peut-elle y avoir droit pour ses salariés?
Réponse juste avant 10h, mais tout de suite. La course au vaccin, cette aventure scientifique, cette bataille économique.
Le vaccin, en fait, a été designé, si vous voulez, par nos équipes en 48 heures.
Stéphane Bancel, PDG de Moderna.
Donc au bout de 48 heures, ils avaient sur ordinateur le vaccin finalisé. Et en parallèle, le processus industriel pour les humains a commencé. Et effectivement, en 42 jours, après ces tests positifs de qualité contrôle et de stérilité, il était effectivement envoyé aux équipes du Dr Fauci qui ont démarré la phase 1.
En avril dernier,
Agnès Pannier-Runacher,
la France a formé une coalition
ministre de l'Industrie
avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec les Pays-Bas, pour négocier avec les laboratoires pharmaceutiques. Depuis juin, nous avons donc conclu, avec l'Union européenne, 6 contrats de préachat de vaccins. Les deux premiers vaccins pouvant obtenir une autorisation de mise sur le marché seront en partie fabriqués en France. C'est le cas de BioNTech, avec Delpharm, sur un site en Eure-et-Loire, et de Moderna, avec Recipharm, sur un site en Indre-et-Loire.
Le début de la vaccination est désormais une question de semaines.
Jean Castex, Premier ministre.
La France disposera de suffisamment de vaccins le moment venu. 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, c'est plus que nos besoins. Ce d'autant que tout le monde ne souhaitera pas être vacciné, mais c'est la marge de sécurité que nous prenons. La vaccination sera gratuite pour tous et le gouvernement a budgété à cette fin 1,5 milliard d'euros dans le budget de la sécurité sociale pour 2021.
Dans le projet de loi de finances sécurité sociale, il y avait déjà une ligne sur la vaccination qui était prévue, mais qui va être très en deçà du coût réel, puisque par exemple, le prix du vaccin qui était intégré, c'était 10 euros.
Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'université Sorbonne Nouvelle.
Or, si c'est effectivement le vaccin Pfizer qui est choisi, il a déjà été annoncé un coût supérieur. Donc c'est évidemment un coût très important pour les États. Les conditions de vaccination peuvent être extrêmement coûteuses. Compte tenu du conditionnement et des conditions de conservation de ce vaccin, il y a un défi logistique très élevé.
Il y a tout un volet économique passionnant dans cette course au vaccin, Béatrice Mathieu. Alors, nous étions confinés en mars, certains d'entre nous seront vaccinés en janvier. C'est incroyablement rapide. Merci qui ?
Merci l'innovation, merci la technologie et effectivement ce qu'on pensait incroyable encore en début d'année, on disait on n'aura pas un vaccin avant 3-4 ans, ça s'est jamais fait, il faut du temps long, etc. Et là, on l'a, presque là, déjà fin décembre dans certains pays et nous début janvier. Il y a plusieurs leçons à retenir de ça. La première, c'est que les deux vaccins qui sont déjà quasiment disponibles, on attend en Europe les réponses de l'Agence européenne du médicament, ces deux vaccins vaccin ou une technologie totalement innovante, une technologie de rupture sur l'ARN messager. Donc c'est un mélange en fait de biologie, de génétique et d'informatique. Et dans les deux cas, que ce soit Pfizer, BioNTech ou Moderna, ce sont des startups qui sont à l'origine en fait de cette révolution du vaccin. Et ça, c'est une grande leçon. Et la seconde leçon, c'est que ce qui marche en fait, c'est cet attelage startup, grand groupe et commande publique. Et l'exemple parfait de ça, c'est Moderna, où Moderna a pu, dans un délai extrêmement court, livrer les essais de stade 3, aussi grâce à une commande publique américaine et de l'argent de l'État américain dans des conditions incroyables. Et ça, c'est une des grandes leçons.
Christian Chavagneux, grande leçon pour vous, ce sont les biotech, vous êtes d'accord? Et puis, le flot d'argent, c'est ça qui a fait la différence?
Oui, dit autrement, la financiarisation de la recherche et du développement dans les labos pharmaceutiques. Parce que où sont passés nos grands labos? Les Novartis, les Sanofi. Alors, on a Pfizer, mais Béatrice l'a bien dit, le vrai innovateur, c'est BioNTech. C'est pas le grand labo.
Une start-up, pourquoi donc, en Allemagne.
Une start-up, oui, bien sûr, qui est née, qui a une dizaine d'années, qui emploie 1000 personnes. Moderna, c'est né en 2008, ça emploie 1300 personnes. Les labos, c'est des dizaines de milliers de personnes, donc c'est toutes petites équipes dans ce milieu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les grands labos pharmaceutiques ont dépensé pas mal d'argent en recherche et développement, ça ne marche pas. Ils veulent ces fameux blockbusters, ces médicaments qui vont être vendus partout dans le monde, qui vont assurer leur profit, ils n'arrivent pas à en trouver. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont externalisé la recherche, ils ont demandé à d'autres acteurs, ces fameux BioNTech qui existent depuis une dizaine d'années. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des prises de participation au capital de plein de petits Moderna, plein de petits BioNTech, et puis dès qu'il y en a une qui fonctionne, hop, on va la racheter, on va essayer de prendre le capital pour récupérer les profits. En attendant, vous savez, Moderna, ils n'ont jamais rien vendu de leur vie en 10 ans.
Non mais c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est fou. Donc qu'est-ce qu'ils financent à part les labos? C'est ce qu'on appelle les capital risqueurs, c'est-à-dire des investisseurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur des choses où ils investissent dans 10 entreprises, il y en a 9 qui vont s'effondrer et une qui va réussir à sortir. Et si vous avez choisi la bonne, et bien vous allez gagner beaucoup d'argent. Et dès que ça marche, soit les labos rachètent, et de leur côté, ces petites structures, BioNTech, elle invente le vaccin, mais elle ne peut pas produire des millions et des millions et des millions et des millions de doses. Donc qui va produire? C'est pour ça que vous avez Pfizer, BioNTech. C'est Pfizer, elle a des grosses usines.
Donc les labos ne sont pas inutiles, c'est ça que...
Non, les labos ne sont pas inutiles, mais c'est les petites mains. C'est ceux qui vont simplement produire les vaccins, alors que l'innovation, attention, cet ARN messager, comme nous a dit Béatrice, on ne l'a jamais utilisé sur les êtres humains.
Donc, c'est vous qui dites ça, Christian Chavagneux, vive la finance, vive la financiarisation de la recherche.
Attention, parce que la question d'après, c'est qui va récupérer?
Alors justement, qui va récupérer? Béatrice Mathieu, est-ce qu'on sait ces vaccins, ils vont être vendus? Je crois qu'il y a une négo d'ailleurs, des négociations très âpres.
Alors, qui se font, et là aussi c'est une grande leçon et leçon positive de l'histoire de cette course au vaccin, c'est que contrairement à ce qui s'est passé sur les masques en Europe, où on a vu que ça a tiraillé dans tous les sens, je sais plus c'était la Hongrie ou la Tchéquie qui piquaient les masques, ouais, à l'Italie, etc. Franchement, le début de la crise au niveau européen, ça s'est pas bien passé. Là, sur cette histoire de vaccin, il y a une avancée qui est quand même incroyable, parce que les États européens ont donné mandat à la Commission européenne, il y a une cellule au sein de la Commission européenne, qui elle-même négocie auprès de chaque laboratoire. Donc aujourd'hui, il y a six grands laboratoires avec lesquels la commission a topé, on pourrait dire, avec des précommandes. Et ces précommandes, en fait, sont des investissements presque à risque que fait la Commission européenne pour que ces laboratoires, en fait, développent les essais cliniques. Et ça, c'est aussi très, très, très important. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de concurrence entre États européens.
Le réveil de l'Europe là-dessus.
Est vraiment significatif.
Christian, allez-y.
Non, mais on verra à quel prix on achète les vaccins. Parce qu'on nous a dit que BioNTech, par exemple, ce sera autour de $20 la dose. Et il faut deux doses. Donc c'est $40 le traitement aux États-Unis. Mais BioNTech a bien dit, attention, ce ne sera pas le même prix partout dans le monde. Et la Commission européenne garde secret le prix auquel elle a acheté, par exemple, le premier vaccin qui va être dispo, c'est-à-dire BioNTech Pfizer, parce qu'il semblerait qu'on ait obtenu un prix beaucoup moins cher que les Américains. Donc évidemment, il ne faut pas le dire tout de suite, sinon les Américains ne vont pas être contents. La question, c'est, une fois qu'ils vont réussir à vendre leur vaccin à $10, $20, Moderna, c'est plutôt $25-$30 la dose, plutôt que les 20 euros.
Mais vous Sanofi, souvenez de Sanofi, plutôt 10 euros. Le président en France était venu nous dire que ça sera moins cher chez nous.
Il nous avait dit 8-10 euros en France, mais parce qu'ils ont une technique aussi qui est moins innovante et donc qui demande moins d'argent. Moi, la question que je pose derrière, c'est, le prix va être quand même assez élevé. Pourquoi est-ce que ce prix va quand même être assez élevé? Parce que les capital risqueurs, les investisseurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui viennent mettre de l'argent dans Moderna ou dans BioNTech, ils récupèrent des dividendes privés. Tant mieux, ils ont investi, c'est normal. Mais où sont les dividendes publics? Parce que la fameuse technique d'ARN, elle vient de la recherche publique américaine. L'argent public pour la recherche, ça a été plus de 5,5 milliards de dollars donnés à l'ensemble de ces laboratoires. Les précommandes dont parlait Béatrice de doses, c'est des milliards d'euros.
Vous voudriez qu'on récupère
les tests de phase 3, on nous dit il faut phase 2, phase 3. Où est-ce qu'ils sont réalisés? Ils sont pas réalisés dans les usines de Pfizer, ils sont pas réalisés chez BioNTech ou chez Moderna, ils sont réalisés dans les hôpitaux publics. C'est parce qu'il y a cette donnée-là qui est disponible qu'on peut progresser. Il y a la solvabilité des clients qui sont assurés par la Sécu et pourtant, il va falloir payer cher alors que pratiquement sauf les petits génies qui ont inventé ces vaccins, l'argent vient essentiellement du public. Donc moi, les dividendes privés pour l'argent privé, c'est bien, mais il y a tellement d'argent public que je ne vois pas les dividendes publics, je ne vois que les coûts publics, malheureusement.
Pas vrai. Béatrice. Quand on regarde, par exemple, je reprends encore l'exemple de Moderna, effectivement, il y a eu de la commande publique, là, dans le cadre des États-Unis, c'est les États-Unis qui ont mis quasiment 1 milliard, en fait, sur Moderna pour développer les essais. Qu'est-ce qui va se passer sur Moderna? En fait, c'est Lonza, une entreprise italienne en fait, qui va produire la substance active suisse, qui va produire la substance active du vaccin inventé par Moderna. Lonza, on les a rencontrés en fait, ils ont investi des milliards en fait dans la création de nouvelles lignes de production.
Donc vous voulez dire qu'il y a des emplois dans l'usine?
Dans l'usine, c'est bien. Mais s'il n'y avait pas
eu l'argent, mais s'il n'y avait pas eu le vaccin, il n'y aurait pas eu d'usine. On est d'accord.
S'il n'y avait pas eu de maladie, il n'y avait pas de vaccin.
Non, mais s'il n'y avait pas d'argent public, il n'y aurait pas eu de vaccin. Et pourtant, on va falloir payer.
Donc en fait, on va payer, mais on va récupérer des emplois, Christian.
Ah ben, on va récupérer des emplois, d'accord, mais enfin...
On va sauver des vies.
Encore heureux, là. On a tout payé.
Dernière question, est-ce que ce vaccin nous assure la sortie de crise ? Christian Chavagneux.
Moi, j'ai été surpris de voir la présentation des nouvelles perspectives de l'OCDE pour 2021. On a le Angel Gurria, qui est secrétaire général, qui vient avec un sourire pour la première fois depuis des mois en disant « Ah bah là, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, ça faisait longtemps. Pourquoi ?» Parce qu'il pense qu'avec le vaccin, on va pouvoir libérer les économies et aussi parce qu'il souligne qu'il va y avoir, d'ici le moment où on sera tous vaccinés et les économies pourront repartir, un très fort soutien public, budgétaire et des banques centrales. Ça, c'est pour le court terme. Mais tout de suite, derrière, la chief économiste, Laurence Boone de l'OCDE vient nous dire attention sur cicatrices de moyen long terme. Il y a un coût économique. Donc le coût économique, c'est l'estimation de l'OCDE, c'est 7000 milliards dans le monde de dollars de richesses non produites et qu'on ne retrouvera jamais. Surtout du côté des entreprises, il y a beaucoup de victimes, les plus petites et les plus jeunes, malheureusement, celles qui sont généralement les plus productives, mais aussi les jeunes, avec un chômage durable sur la longue durée pour le chômage des jeunes. Rappelons-nous qu'en 2019, il y avait pratiquement le même taux de chômage des jeunes qu'à la fin de la sortie, enfin au moment de la sortie de crise de 2007-2008. Donc, la crise financière fait monter le chômage des jeunes. On n'a jamais vraiment réussi dans beaucoup de pays à le faire rediminuer. Là, coût supplémentaire, et les sociologues nous ont dit dès que vous avez des problèmes pour rentrer sur le marché du travail quand vous êtes jeune, vous allez le payer longtemps. Et puis les écoles des quartiers défavorisés sur lesquelles l'OCDE a voulu aussi insister.
Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice Mathieu? Est-ce que l'arrivée de ce vaccin, pour vous, ça signifie la sortie de crise?
C'est effectivement un peu la sortie de la première phase de la crise, et Christian l'a très très bien dit. Après, on va sortir de la crise avec beaucoup moins de muscles. Moi, juste pour rebondir sur les prévisions de l'OCDE, moi ce qui m'a frappé en fait, c'est que c'est la grande victoire de la Chine, puisque la Chine en fait, finalement, d'après les prévisions de l'OCDE, fin 2021, elle aura un PIB qui sera 10% supérieur à son niveau de fin 2019. Aux États-Unis, ça sera flat, ça sera quasiment la même chose.
Flat, ça veut dire tout plat.
Ça veut dire tout plat. En français. Tout plat.
Tout plat, tout plat.
Et tout plat. Et sauf que l'Europe est le grand perdant de l'histoire, puisqu'on aura un niveau d'activité, donc de richesse, qui sera 3 points inférieur à celui de fin 2019. Donc pour rattraper ce niveau-là, ça va nous prendre des années.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle. En effet, l'Europe, grand perdant, parce qu'on a beaucoup plus confiné, parce qu'on a des spécialisations économiques. Enfin, il y a pas mal de raisons. Eh bien, écoutez, Béatrice Mathieu, la planète éco, l'arrivée du vaccin, comment ça se passe en Chine? Eh bien, on y va. Voilà, bonjour Dominique André.
Bonjour Alexandra.
Dominique, vous êtes la correspondante permanente de France Inter en Chine. Alors, on voudrait bien en savoir plus, vous, sur vos grands laboratoires qui sont en pole position sur la recherche et la fabrication du vaccin. D'ailleurs, chez vous, la vaccination a commencé il y a déjà plusieurs mois.
Le PDG de Sinopharma, premier fabricant de vaccins en Chine, l'a annoncé le mois dernier. Effectivement, presque 1 million de Chinois ont été vaccinés grâce au programme de l'utilisation d'urgence qui a été mis en place en juillet. Le vaccin est réservé aux personnes jugées essentielles qui se rendent à l'étranger. Ce sont par exemple des employés qui travaillent sur les routes de la soie. Des Chinois sont vaccinés aussi en Chine. Ils travaillent dans des zones à risque comme les hôpitaux, les aéroports, les ports, les écoles, et puis il y a des étudiants. Et puisque vous vous intéressez à ces laboratoires, Sinopharm est une entreprise d'État qui développe 2 candidats vaccins en phase 3 dans 10 pays, dont la Jordanie ou l'Argentine. Sinovac Biotech est une firme privée qui vaccine en utilisation d'urgence, notamment des étudiants chinois qui partent à l'étranger, et qui conduit aussi des essais au Brésil. On peut citer CanSino Bio, coté à la bourse de Hong Kong, dirigé par Sue Fang Yu, un ancien de Pasteur Mérieux, et qui a prévendu 35 millions de doses au Mexique.
Dominique, ce qu'on peut dire aussi, et Béatrice Mathieu vient d'en parler, c'est que la Chine, elle n'a pas attendu le vaccin pour sortir de la crise économique. En 2020, donc, c'est le seul grand pays qui échappe à la récession.
La Chine est en train de revenir à des niveaux pré-pandémie. Dans le secteur manufacturier, l'activité progresse en novembre à son rythme le plus rapide depuis 10 ans. Les centrales à charbon sont reparties pour alimenter la croissance, qui sera positive avec une prévision à 1,8% pour 2020. La consommation intérieure va beaucoup mieux. On a l'exemple d'Alibaba qui a vendu pour près de 69 milliards d'euros de marchandises lors de la fête des célibataires le 11 novembre, soit plus 26% par rapport à l'an dernier. Après, tout n'est pas rose, loin de là pour la classe moyenne. Si la Chine affiche officiellement un taux de chômage de 5,3% en octobre, la réalité est différente avec un chômage partiel non déclaré. Beaucoup de Chinois ont un deuxième travail pour survivre, tel cet ingénieur que nous avons rencontré il y a quelques jours, qui vend de l'assurance en ligne pour compléter son salaire, amputé par son employeur principal qui ne s'est pas remis encore des dégâts économiques du Covid. Alors l'économie chinoise va beaucoup mieux, c'est vrai, mais en Chine, les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes.
Dominique André avec nous depuis Pékin, et merci à vous aussi Béatrice Mathieu et Christian Chavagneux. Dans 10 minutes, notre invité, c'est la présidente de la Fédération française de l'assurance, Florence Lustmann. Mais d'abord, en attendant la sortie de crise, pour les entreprises les plus touchées, il faut tenir. Il faut aussi savoir s'orienter parmi toutes ces aides, toutes ces annonces. C'est ce qu'on entend quand on sort du studio. Alors venez, à 40 minutes au sud de Paris, si ça roule bien, c'est notre reporter Hélène Philly qui nous conduit. Voici le Plessis-Robinson, sa zone d'activité. Et là, le petit bâtiment blanc à un étage, c'est l'entreprise d'événementiel de Stanislas Gouilly-Froissart. Ses étagères sont beaucoup, beaucoup trop bien rangées.
Vous avez le matériel vidéo qui est ici, le matériel vidéo encore ici parce qu'on en a pas mal, sonorisation, éclairage.
Il n'y a pas grand-chose qui bouge là en ce moment.
Ah bah non, là, vous marchez là où normalement il y a du matériel. Et là,
on devrait marcher sur un sol de fil en fait, voilà, en préparation
tout
pour...
Tout est en rayon.
Elle en est où votre trésorerie aujourd'hui?
Si vous voulez, on va dans mon bureau peut-être pour discuter de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Si je sais ce que je vais vous montrer. Alors ça a étonné un de mes amis. Depuis le 1er mars, j'ai un dossier qui s'appelle Covid-19. Et en fait, c'est le dossier que j'ouvre tous les jours, puisque en fait, c'est un dossier de crise. C'est un recensement de toutes les annulations des contrats clients.
Vous avez fait un dossier aide par aide, ouais, que potentiellement vous pouvez solliciter.
Voilà, fonds de solidarité, fonds Île-de-France, fonds de résilience Île-de-France, le PGE, la première demande de PGE que j'ai fait en mars, et la demande de complémentaire que je suis en train de faire.
Est-ce que c'est facile de s'y retrouver dans toutes ces aides-là?
Quand vous faites plus que ça, oui. Mais parce que je ne fais plus que ça. Je pense que la première difficulté, c'est de se dire « je veux bien faire et je veux pas qu'on me reproche d'avoir bénéficié de ces aides alors que je n'y avais pas le droit ». Donc on marche un peu tout le temps sur des œufs pour aller outre les interfaces web qu'on nous propose pour bénéficier de ces aides, où en fait finalement, vous avez toujours une case, vous pouvez pas répondre ou vous savez pas quoi répondre parce qu'il y a des subtilités partout et qu'il faut parler à un humain. Et c'est ça le plus dur en fait. Ça m'a pris, j'ai commencé au mois de mars, je crois que le premier humain que j'ai eu à la BPI, c'était en octobre.
à la Banque publique d'investissement.
Voilà. Vous avez des phases où vous êtes complètement submergé par l'émotion, par les questions. C'est des nuits d'angoisse où, en fait, vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes en train de vous faire des plans dans la tête pour dire « mais comment je vais faire ça ? Pourquoi il ne me répond pas ?» Pourquoi... C'est un parcours du combattant et je comprends tout à fait ceux qui abandonnent, en fait.
Cette entreprise, c'est celle de son père qui l'a reprise, Stanislas. Alors le patron n'abandonne pas, il tient à jour son dossier de crise. Parce que des aides, il y en a, hein, des annonces, des adaptations, des dispositifs, il y en a. Mais ce qui n'est pas toujours évident, c'est de remplir les dossiers. Certains se retrouvent bloqués, paumés sur le site de Bercy, il leur faut de l'humain. Stanislas l'a trouvé donc, il nous l'a dit, à la Banque publique d'investissement. D'autres demandent de l'aide aux médiateurs des entreprises. Ils peuvent aussi appeler leur chambre de commerce et d'industrie. Tenez, à 400 km du Plessis-Robinson, vers l'ouest, nous voici à Nantes, sur le plateau des téléconseillers d'Allo PME. À chaque intervention du gouvernement, leur standard explose. On suit toujours le micro d'Hélène Philly.
Oui, d'accord. À Vannes, d'accord. D'accord.
Moi, je suis Claire Douillard, je suis conseiller financement à la CCI. Donc, nous allons rappeler un expert comptable qui se demande comment déclarer l'indemnisation fonds de solidarité. Notre travail, c'est aussi de démêler la problématique, les questions, parce que pour les dirigeants, c'est touffu, pour arriver à extraire les besoins et surtout leur donner la bonne information.
Même à des experts comptables.
Même à des experts comptables.
Allô ?
Oui, bonjour madame, Claire Douillard, chambre de commerce et d'industrie.
Oui, bonjour.
Bonjour, je vous rappelle, suite à l'échange mail que vous avez eu avec ma collègue. Déjà, ma première question était de savoir sur quelle activité saisonnière cela concerne-t-il l'entreprise
c'est
dont vous parlez.
Des ventes de bijoux, de déco sur la côte.
Ok.
Donc elle a un gros chiffre d'affaires en pleine saison, mais novembre-décembre, elle est ouverte que 3 jours par semaine.
D'accord. Donc, pour une fermeture administrative, quand effectivement on indique qu'il n'y a pas eu d'activité en 2020, l'entreprise était fermée.
Oui.
Si je me suis basée donc, sur le chiffre d'affaires novembre 2019, comme vous me l'aviez indiqué, de 840 euros, sur la base d'un chiffre d'affaires moyen mensuel de 7800 euros, on est sur un montant de l'aide à obtenir à 7800 euros.
Donc il prend bien le CA moyen.
Voilà, tout à fait.
Je me dis, est-ce que c'est logique qu'on réclame 7800 ? Mais après, dans les textes, c'est bien marqué qu'on a le droit de prendre le CA moyen. Donc,
c'est ça.
Ok. Et par contre, imaginons que, par exemple, on a aussi des activités saisonnières où ils n'ouvrent pas novembre-décembre, par exemple. Là, on ne peut pas demander l'aide, on est bien d'accord.
Rien n'est moins sûr. Je vous envoie le simulateur, vous allez pouvoir de toute façon avoir des éclaircissements. D'accord.
Ok, une bonne journée, au revoir.
En fait, c'est ça la problématique. C'est qu'il y a la règle, il y a le décret, et puis il y a toutes ces entreprises pour lesquelles on est un petit peu entre les deux. Quoi. Les gens sont très ouverts à ce que... Enfin, quand on dit, on ne sait pas, mais on vous rappelle. Et ils préfèrent patienter, en général, c'est moins d'une demi-journée pour avoir vraiment l'information précise.
Anthony Valentini, directeur général des CCI de Vendée et de Nantes-Saint-Nazaire. La complexité, elle réside souvent du chevauchement des dispositifs et de situations d'entreprise qui se retrouvent à pouvoir bénéficier de plusieurs dispositifs. Et puis on a aussi, l'économie est une donnée complexe, donc on retrouve ça et là des exemples d'entreprises qui ont une forme juridique croisée avec une activité qui font qu'il est difficile de trouver exactement la bonne mesure pour les accompagner. Mais aux pratiques, on constate qu'il y a eu d'une part des dispositifs qui ont été construits avec des bornes suffisamment larges pour toucher le plus d'entreprises possible. Et quand certains effets de seuil ont pu se manifester, on a remonté ces éléments de complexité et on a trouvé beaucoup de réactivité de la part des pouvoirs publics pour réaménager les dispositifs.
Est-ce que vous êtes sollicité sur des questions comme les loyers, comme les assurances ?
Oui, ça fait vraiment partie des questions sur lesquelles on est sollicité. Clairement, on ne peut pas incriminer des professions parce qu'il est survenu cet événement-là. Les contrats sont signés d'une certaine manière. Je pense qu'on a quand même des moyens de dialoguer avec son assureur pour regarder si, ça et là, des aménagements ne peuvent pas être réalisés.
Avec les assurances, la question des loyers est centrale. Une charge fixe très lourde, mais des discussions avec les bailleurs souvent compliquées. On va voir ce qui s'est passé pour le restaurant péruvien El Picaflor dans le 5e arrondissement de Paris.
Je suis Lourdes Pluvinage, chef de cuisine péruvienne, formée par ma mère au Pérou.
Donc
on s'apprête à ouvrir.
Madame Tolo, vous êtes la propriétaire.
Avec Lourdes et avec mon mari.
Combien payez-vous de loyer ici?
Charge incluse 3200.
Et ce n'est pas seul local que vous avez, vous en avez trois.
C'est ce que je voulais vous dire, il y a bailleur et bailleur. Un bailleur extraordinaire qui, effectivement, nous a pas mis la corde sous le cou et qui nous a dit « faites comme vous pouvez, quand vous pourrez ». Le deuxième bailleur, c'est sa retraite, si on peut dire. Elle avait investi dans des petits locaux, ce petit local. Elle en a besoin, je veux dire. Donc, on l'a un peu privilégié par rapport à un troisième bailleur qui, lui, est un agent immobilier qui exigeait son paiement.
Voilà, et c'est pas son problème. Parce que vous avez dit, c'est pas mon problème.
Aucune compréhension et aucun pardon de quoi que ce soit, même pas diminuer le loyer. On a tout essayé. On baisse un peu, on paye un peu, voilà. Bon.
La solution, vous l'avez trouvée avec le médiateur des entreprises.
On lui doit une fière chandelle. Vraiment, il nous a accompagnés dans nos démarches vis-à-vis du bailleur. Et le résultat, c'est que le bailleur, finalement, après moult va-et-vient, on lui a dit, on ne paye pas mars, avril, mai. Mais, à partir de juin, vu que maintenant on est réouvert, même si on fait 80% de moins, on va vous régler. On a payé septembre à terme échu. Et puis, à nouveau octobre, c'est la dégringalade.
On fait appel à nouveau.
Eh bien, on n'a pas payé, quoi.
Est-ce que le crédit d'impôt qui a été proposé par le gouvernement pour les bailleurs qui acceptent de vous reporter les loyers...
Rien. On a des relances de loyers à payer. Mais nous, on sait qu'il a droit à un crédit d'impôt de 30% à peu près, quelque chose comme ça.
C'est si passé même à 50%.
Même, pour l'instant, c'est sourd d'oreille. Et je ne sais pas ce qu'on va faire.
Vous allez rappeler le médiateur.
Je crois.
Ce médiateur, on l'a rencontré, Pierre Pelouzet et son équipe ont vu la question des loyers s'imposer ces derniers mois, 25% de leurs dossiers maintenant.
Nous avons la chance d'avoir deux types de médiateurs, à la fois en région, des acteurs, des agents de l'administration formés à la médiation qui partout sur le territoire peuvent aider les entreprises, mais aussi nous avons des bénévoles, retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce. On peut être saisi par le commerçant, on peut être saisi par le bailleur, on peut être saisi par le locataire, quel qu'il soit. À partir de là, le médiateur va prendre contact avec les deux, l'un puis l'autre, essayer de comprendre leur sujet, comment ils se positionnent, quelles sont leurs difficultés. La discussion, souvent, est un peu tendue au début. Et c'est normal. Il faut que chacun puisse sortir, dire « voilà, ça va pas, je suis pas content, c'est difficile, vous me comprenez pas, vous m'écoutez pas ». Tout ça, c'est souvent le début d'une médiation. Et puis, petit à petit, quand chacun a, comme on dit, un peu vidé son sac, on en arrive à la vraie médiation, c'est-à-dire petit à petit, construire une solution. Après, il faut trouver le bon équilibre. Il y a des commerçants qui ont encore un peu de réserve, qui peuvent se permettre de payer un petit peu de loyer encore pendant quelques mois. Il y a des bailleurs qui sont dans une situation où ils peuvent se permettre d'abandonner un ou deux mois de loyer pour aider leurs commerçants. À chacun, de manière transparente, et c'est ça tout ce qu'amène la confidentialité, c'est de pouvoir de manière transparente dire « voilà où j'en suis, je peux peut-être abandonner novembre mais pas décembre ». J'attends de vendre la collection de janvier pour pouvoir te payer. Dans les trois quarts des cas, les entreprises qui acceptent de venir en médiation trouvent leur solution avec l'aide du médiateur. Et je rappelle que c'est un service public, donc c'est un service gratuit, au-delà du fait qu'il soit confidentiel. En quelques semaines, on les amène autour de la table et, si tout va bien, à trouver une solution.
SOS Entreprises perdues dans le maquis des aides, c'était le reportage d'Hélène Philippe.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Qui aide? Qui est solidaire? Qui prend sa juste part? C'est tout le sujet ce matin. Et les assureurs sont interpellés. La présidente de la Fédération française de l'assurance est dans ce studio. Bonjour Florence Lustmann.
Bonjour.
Alors le sujet, c'est donc la perte de revenus à cause de la pandémie. Il y a des restaurateurs qui assignent leurs assureurs en justice. Il y aura encore 2000 dossiers qui pourraient arriver si l'on en croit un de leurs syndicats. Et maintenant, ce sont les clubs de foot qui vont en justice aussi. Le Stade Rennais l'a fait. L'OM envisage de le faire. Que leur dites-vous, vous, la présidente de la FFA, à ces assurés?
Alors d'abord, moi ce que je dis, c'est que depuis le début de cette crise sanitaire, les assureurs payent un très très lourd tribut à la crise. On est extrêmement touchés, on est au plus près de nos assurés, on est les premiers à voir les énormes difficultés des restaurateurs, des entrepreneurs, des indépendants. Mais il ne faut pas oublier que nous, on assure la vie de tous les jours. Donc quand il y a par exemple 30% de plus d'arrêt de travail depuis le début de l'année, eh bien nécessairement, nos contrats qui s'appliquent, ils vont occasionner beaucoup plus d'indemnisations que dans les années normales. Mmh. Au total, ça va être plus de 2 milliards d'euros de plus de sinistres qui vont être à la charge des assureurs en 2020.
D'accord,
donc vraiment, je ne peux pas entendre qu'on se serait enrichi pendant la crise. C'est juste n'importe quoi. Donc, on paye un lourd tribut. Ouais,
à la fin de cette crise, est-ce que l'assurance... Alors, j'ai regardé les chiffres. Il y avait 13 milliards de résultats nets en 2019. C'est quand même un secteur qui se porte bien. La rentabilité, c'est 7%. En 2020, il se passe quoi en chiffre global pour les assurances? Parce qu'il n'y a pas que cette crise. Il y a aussi d'autres choses qui vous rapportent.
Alors, là, on est en train de parler de l'assurance non-vie. Hein. Oui. Donc, le résultat net de l'assurance non-vie en 2019, allez-y, c'était 3,9 milliards. Hein. Un peu moins de 4 milliards. Aujourd'hui, au global, cette crise, elle va coûter au secteur 5 milliards. Pourquoi 5 milliards? Je vous dis, 2 milliards de plus sur les sinistres. 2 milliards et demi...
Quand dites sinistre, c'est rembourser
l'indemnisation
de la perte d'exploitation?
Non, pas seulement. Tout D'accord. ce qui est lié à la crise. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Je veux dire, l'indemnisation, on parlait tout à l'heure dans le reportage de l'événementiel, il y a beaucoup d'événements qui étaient couverts par une assurance annulation qui a évidemment joué. Les arrêts de travail, j'en ai parlé. Et il y a tout les risques de responsabilité. C'est terrible ce qui s'est passé dans les EHPAD, dans les établissements hospitaliers. Donc, maintenant, il y a des mises en cause. Et tout ça, c'est couvert par les contrats de responsabilité civile.
D'accord,
donc,
mais maintenant, les pertes de revenus, les pertes d'exploitation, c'est ça le sujet. Hein. Et là, les restaurateurs aussi, ils doivent avoir les cheveux qui se hérissent quand ils vous entendent. Et qui, voilà, eux, ils disent, on avait des contrats. Dans certains, il y avait marqué le mot couverture pandémie. Est-ce que, combien avez-vous remboursé?
Alors, je termine quand même, parce que c'est important. Je vous ai dit 5 milliards, je vous ai expliqué 2 milliards. On a fait 2 milliards et demi de gestes extra-contractuels, solidaires. Hein. Là-dedans, on va trouver les 400 millions dans le fonds de solidarité. On est le seul secteur privé à avoir pris autant de décisions très rapides pour aider nos concitoyens, parce que tous les jours, on est à côté d'eux. Et ça, alors, je ne peux pas laisser dire autre chose, et ce sont des sommes qui sont très importantes.
Alors que se passe-t-il, Florence?
Alors, on va se focaliser sur, effectivement, un secteur très particulier, qui est celui des cafés, hôtels, restaurants.
Okay,
au total, quand même, il faut savoir que dans cette crise, pour les cafés, hôtels, restaurants, on aura servi quand même beaucoup d'indemnisations qui sont liées à la crise Covid. Dans les gestes extra-contractuels, on a annulé les loyers, par exemple. On a indemnisé certains contrats de perte d'exploitation. Hein. Je vous rappelle que sur le total des contrats, notre autorité de contrôle a examiné la situation. Elle a dit dans 93% des cas, c'est clairement exclu, donc on n'en parle plus. Dans 3% des cas, en fait, c'est couvert. Bon, l'assureur, il n'avait pas spécialement prévu de couvrir ce qui n'est pas couvrable, une pandémie, mais ça s'applique, donc évidemment, c'est indemnisé. Il y a 4% des cas, et en fait, c'est ceux-là dont on parle, dont on n'arrête pas de parler, pour lesquels il y a une marge d'interprétation. Et donc, les 3%, ils ont été indemnisés. Dans les 4%, il y a ou bien il y a eu des transactions, ou bien il y a des tribunaux qui sont saisis, et voilà, maintenant.
Et à ce jour, ça représente combien ce qui a été remboursé de perte d'exploitation? Alors, que ça soit couvert ou que ça y ait de la négo, est-ce qu'il y a une enveloppe?
Non, mais au total, ce que va coûter pour ce secteur aux assureurs la crise Covid, ça se chiffre en milliards pour les 245 000 cafés, hôtels, restaurants. Il y a beaucoup de gestes solidaires pour les 93% qui n'étaient pas couverts. Alors, il y a plein d'assureurs qui ont fait des gestes.
J'entends que vous dites non, on fait le job. Et pourtant, dimanche dernier, vous avez un ancien agent d'assurance, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui dit « Les assureurs, ils sont bien cachés depuis le début de la crise. Cette semaine, on a une tribune d'une quarantaine de députés de la majorité qui vous accuse de déserter. » Comment vous l'expliquez, Florence Lustmann?
Écoutez, peut-être qu'on n'a pas suffisamment expliqué ce qu'on faisait. Après, il y a beaucoup de gens sur le terrain qui en ont bénéficié, mais évidemment, ceux-là, ils n'en parlent pas. Ils ont juste été indemnisés, ils ont bénéficié de tous ces gestes des assureurs et ils ne sont pas sur le plateau aujourd'hui avec moi. Donc, ce qu'on entend, c'est effectivement parmi ceux qui souffrent
le plus... Les politiques sont les politiques qu'on entend.
Oui, mais...
Pourquoi?
Mais les politiques, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent, comme à chaque fois qu'il y a un problème en France, une taxe. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. On est le pays qui taxe le plus. Vous savez, sur l'assurance responsabilité civile automobile, celle qui est obligatoire, connaissez le taux de la taxe? C'est 35%. C'est n'importe quoi. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la relance. Et nous, on est sur la relance.
Alors la taxe, moi je vais m'arrêter sur la taxe, parce qu'en effet, il y a cette menace au-dessus de vos têtes. L'ultimatum, c'est lundi. Ouais. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vous a dit soit vous acceptez de geler les primes sur restaurants, cafés, hôtels. Geler, ça ne veut pas dire baisser, hein. Ça veut juste dire geler. Soit, en effet, une taxe d'1,2 milliard sur ces dossiers, sur ces primes pour les assureurs que vous devrez payer. Qu'allez-vous faire, alors, Florence Luçmann ? Que va faire la profession ?
Bah écoutez, on va répondre au ministre. On répondra lundi au ministre, puisqu'on va le rencontrer à nouveau.
On est samedi, j'imagine.
Ah, mais on continue à travailler même le week-end, donc ouais. On apportera notre réponse lundi.
Vous voulez dire qu'il y a certains de vos adhérents qui préféraient payer une taxe plutôt que geler les primes ?
Écoutez, on va voir. On va proposer quelque chose au ministre, ça c'est sûr. Moi, je voudrais quand même rappeler que notre métier, c'est d'être investisseur. Vous savez qu'on est les premiers financeurs de l'économie. 60% de nos placements qui font rêver tout le monde et qui, soit dit en passant, appartiennent aux assurés. Hein. C'est leur épargne, c'est ce qu'on leur doit au titre des sinistres, c'est pas notre argent, hein, c'est l'argent des assurés. Donc quiconque veut le taxer, taxe en fait derrière la société, l'économie. Nous, 60%, eh bien, est investi dans l'économie, dans les entreprises directement.
Est-ce que c'est ça que vous allez dire au ministre? Vous allez lui rappeler, mais quelles sont les pistes? C'est-à-dire, vous dites, vous allez faire une réponse.
On va faire une réponse, c'est prématuré pour que je vous donne la réponse, parce que là, on est samedi matin, on va encore travailler tout le week-end. Je ne peux pas vous faire cette réponse, mais on va lui rappeler, et je crois que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il sera très, très, très sensible. On est le seul secteur à s'être engagé à hauteur de 2 milliards pour financer la relance durable de l'économie française. On est très engagé sur le durable.
Cependant, vous devrez faire un geste. Est-ce que ça, au moins, c'est acté? Est-ce que la profession a conscience que lundi, il faut arriver à Bercy avec un geste, voire des gestes, si je lis bien, apparemment tous les assureurs vont dire ce qu'ils font chacun dans leur... C'est peut-être ça la piste d'ailleurs, hein. Ce qu'ils font chacun pour geler les primes ou pas geler les primes. En tous les cas, il y aura un geste.
Non, mais de toute façon, la demande du ministre a été très bien comprise. Moi, je veux quand même rappeler qu'avec nos 2 milliards, on a vraiment les moyens d'aider à la reprise, et une reprise qui doit être durable. C'est-à-dire que cette crise, dont j'espère qu'on est en train de sortir avec les vaccins qui arrivent, il faut quelque part en profiter pour reformater notre économie française, européenne d'ailleurs, de façon à ce qu'elle soit plus durable. Et nous, par exemple, nos financements, là, nos 2 milliards, ils sont conditionnés à ce que les entreprises qui en bénéficient aient une démarche responsable, une démarche RSE. On va leur demander de nous remonter des indicateurs, comme par exemple, vous serez peut-être sensible comme moi à cet indicateur, qui est le nombre de femmes dans les salariés et le pourcentage de femmes dans le management, par exemple. Donc vous voyez, on a des leviers, on peut aider à transformer notre économie pour être plus fort dans un ou deux ans que ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'on est très affaibli économiquement par cette crise.
En effet, et justement, pour ceux qui sont affaiblis, une dernière chose quand même. En ce moment, il y a des lettres qui arrivent au sujet de 2021. Ce sont des lettres qui mettent beaucoup d'assurés en colère. On leur dit, soit vous signez un avenant pour dire que vous n'êtes pas couvert en temps de pandémie, soit vous êtes résilié. Et cette lettre, elle arrive dans la boîte aux lettres des restaurateurs qui n'ont pas ouvert depuis des mois. Le ministre dit que c'est au moins maladroit, sinon déplacé. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, moi, je comprends parfaitement l'irritation de ceux qui reçoivent ces courriers. Alors en même temps, faut pas oublier que les assureurs, ils ont beaucoup de commerciaux, des intermédiaires qui font de la pédagogie et qui expliquent. Mais effectivement, ce qui s'est passé, c'est que notre autorité de contrôle elle-même, et c'est de l'intérêt de toute façon de l'assuré et de l'assureur, que les contrats soient d'une totale clarté sur ce qui est couvert. Et donc, il y a des contrats, je vous l'ai dit, 4% hein, des contrats qui étaient peut-être un peu ambigus pour savoir si ça couvrait ou non les pertes d'exploitation sans dommage.
Non, mais ça, on a bien compris.
Et
mais
la clarification ne peut aller malheureusement que dans un sens, c'est l'exclusion, parce qu'on ne peut pas couvrir l'assurance privée, ne peut pas couvrir la pandémie. Elle ne peut pas couvrir les risques dans lesquels tout le monde est touché en même temps.
Donc c'est un sentiment d'injustice. Florence Luçmann, pour vous, j'entends l'injustice.
C'est vrai. C'est pas faux, mais on est là, on est à côté de nos assurés. Ouais. Et encore une fois, on va aider à la relance du pays, parce que ça, c'est aussi notre métier.
Florence Luçmann, la présidente de la Fédération française de l'assurance, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, vous avez la question de Clotilde, qui est commerçante à Paris. Clotilde a un magasin de décoration avec deux salariés. Elle a aussi dû fermer. Est-ce qu'elle peut bénéficier des 10 jours de congés payés que l'État va prendre en charge pour les restaurants notamment ?
Alors Clotilde, il faut prendre un agenda et une calculette. Pour avoir droit à ces 10 jours de congés payés pris en charge par l'État, vous devez avoir fermé 140 jours au moins depuis le 1er janvier ou démontrer que votre chiffre d'affaires a chuté de 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire était déclaré. La mesure a été calibrée pour les secteurs les plus touchés par la crise, les restaurants, les hôtels, l'événementiel, les salles de sport ou de spectacle. Donc Clotilde, même si vous avez dû vous aussi baisser le rideau, il n'est pas dit que vous entriez dans les clous, pas plus que les grandes enseignes d'habillement. En revanche, le dispositif pourrait embarquer d'autres secteurs comme les salons d'esthétique. Pour tous ceux qui vont pouvoir en bénéficier, c'est plutôt un ballon d'oxygène parce que pendant le chômage partiel, l'État rembourse les salaires, mais le compteur des congés payés, lui, continue de tourner. Un salarié cumule en général 2 jours et demi par mois, et c'est une petite bombe à retardement pour toutes ces entreprises en difficulté. Le gouvernement a donc décidé de prendre en charge ses congés payés, 84% du net, l'employeur doit payer le reste, et ces jours devront être pris entre le 1er et le 20 janvier prochain, ce qui suppose d'aller vite pour respecter le délai de prévenance de 30 jours.
Sandrine, est-ce que les employeurs auront envie que les salariés prennent des jours de congé alors que l'activité va reprendre? Et les salariés seront-ils d'accord pour le faire?
Bon, les entreprises, elles sont plutôt gagnantes financièrement, même si elles avaient demandé 15 jours et qu'elles en ont obtenu 10. Le gouvernement, qui devrait débourser 600 millions d'euros, a fait en sorte que la mesure porte sur des jours de congé qui ont été cumulés pendant les périodes de confinement, quand l'activité était à l'arrêt, pas toute l'année, pas entre les deux vagues. Du côté des salariés, c'est moins évident. Il y a les jours en stock qui ont été cumulés sur l'année 2019-2020 et les jours à venir pour la période 2020-2021. C'est toujours un énorme casse-tête les compteurs de congés payés, mais il faut retenir que l'aide sera versée en 2021 pour les jours en stock, plutôt 5, et sur 5 autres jours pris par anticipation. Évidemment, pour ces jours-là, il faudra que les salariés soient d'accord. C'est là que ça risque de coincer, sauf que ni les employeurs, ni les salariés de ces secteurs n'ont besoin d'un dessin. Ils voient la vague arriver. Le sacrifice sera sans doute un peu plus facile à accepter.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.